Et sa famille, bienvenue à vous parmi nous. Et c'est vrai que durant l'été, c'est l'occasion aussi d'avoir des visiteurs et on est très content de vous avoir avec nous. Juste pour l'information, donc Joël est étudiant à l'Institut biblique de Nogent. Et donc vous aurez le plaisir de faire connaissance avec lui, avec sa famille, tout à l'heure. Et je suis aussi content de vous retrouver ce matin parce que, bon, vous avez remarqué que la semaine dernière, je n'étais pas là. Damaris et moi avons passé de très bonnes vacances. Et nous repartons de nouveau cette semaine. Et cette fois-ci, ce sera à la fois un temps de repos et un temps de service auprès de notre église sœur qui se réunit à Limoges. Mais assez parlé de mes vacances, entrons dans le vif du sujet. Nous sommes donc dans cette série de l'été sur le livre de l'Ecclésiaste. À plusieurs reprises, la sagesse est présentée comme la voie à suivre, à l'opposé de la folie. Le sage, dans la perspective biblique, et celui qui tient compte de Dieu, il craint Dieu, il respecte Dieu, il obéit à ses commandements, parce que, en fait, la parole qui vient de Dieu a du poids pour lui, compte pour lui. Mais le sage n'est pas pour autant en maîtrise de sa vie, puisqu'il reste une créature de Dieu, soumise à la condition de la vie présente. La sagesse, en fait, ne permet pas de s'élever au-dessus de cette condition humaine. Et comme tous les autres hommes, le sage ne sait pas ce qui arrivera. Certaines situations ici-bas paraissent même injustes. Le juste est parfois traité comme un méchant. Et le méchant est parfois traité comme injuste. Mais au milieu de sa peine, le sage peut quand même profiter d'un peu de bonheur. Et nous aurons l'occasion d'y revenir encore tout à l'heure. Mais notez-le une fois de plus, l'Ecclésiaste est un livre où nous sommes exhortés à être heureux. Malgré les vicissitudes de cette vie, au milieu des déceptions et des frustrations inévitables, au milieu de la peine que nous nous donnons dans notre activité, l'Ecclésiaste est un livre où nous sommes exhortés à être heureux. Et parmi les observations qu'il fait, le Cohélète, l'Ecclésiaste, relève ceci. Chapitre 9, verset 1. « J'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. » C'est ce que vous avez vu la semaine dernière. Alors que tout ne se passe pas toujours comme on aimerait, et même le sage lui-même n'est pas certain de réussir, voilà une parole rassurante pour nous ce matin. Celui ou celle qui choisit de vivre selon la sagesse, est dans la main de Dieu. C'est une parole pour nous qui sommes croyants. Nous sommes assurément dans la main du Tout-Puissant. Dans sa main, ce que nous entreprenons n'est sûrement pas vain. Nous ne savons ni ce qui nous attend, ni ce qui arrivera, mais nous savons que nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains d'un Dieu bon, d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui est plein de grâce. Et nous l'avons loué, ce Dieu-là, tout à l'heure. Examinons maintenant ce que le Cohélète enseigne dans le texte d'aujourd'hui, à partir du verset 2. En fait, des versets 2 à 6, il nous parle d'un sujet qu'il a déjà abordé précédemment. Un sujet qui n'est pas des plus joyeux, mais un sujet qu'il faut quand même traiter, la mort, comme sort universel pour tout être humain. Des versets 7 à 10, le Cohélète tire de ce constat, puisque la mort est un sort universel pour tous, tire de ce constat deux exhortations à profiter de la vie, à vivre entièrement cette vie, et à œuvrer tant que cela est possible. Et puis du verset 11 jusqu'au chapitre 10, verset 1, le Cohélète fait part de ses observations. Il a vu qu'il existe bien des obstacles sur le chemin du sage, en sorte que ce qu'il entreprend ne réussit pas toujours. Et une nouvelle fois, le Cohélète nous invite à regarder la réalité en face. Commençons donc par ce même sort sous le soleil. Depuis le début de la Bible, si vous avez lu le début, la Genèse, depuis le début de la Bible, il est question de ce sujet qui n'est jamais à prendre à la légère. La mort, avec l'entrée du péché dans le monde. Oui, nous le savons, nous ne le savons que trop bien, tout le monde finit par mourir. Nous le voyons dans notre entourage. Nous entendons aussi quotidiennement ces chiffres au sujet de victimes de guerre ou d'actes de folie, au sujet de personnes qui succombent à leur maladie ou qui ont eu un accident mortel. Certains aussi, mais j'ai l'impression que nous en parlons moins, meurent naturellement dans leur sommeil. Regardons comment le Qohélète en parle. Regardez le verset 2, chapitre 9. « Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur et celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. » Quel que soit le comportement de l'être humain, il finit par mourir. En parlant, le Qohélète dit bien que c'est un mal, verset 3, parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un mal parce que ça pousse beaucoup à raisonner ainsi. À quoi bon être juste si on finit comme le méchant? À quoi bon bien se comporter si notre sort finalement est le même que celui qui est rempli de méchanceté? Et nous le constatons. Face à cette perspective certaine de la mort, certains ne changent pas de comportement. Leur cœur, on le lit au verset 3, leur cœur est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils savent qu'ils vont mourir que pour autant ils vont changer d'attitude. Et la folie, dans le langage biblique, désigne l'attitude de celui ou celle qui ne veut pas tenir compte de Dieu. Est insensé celui ou celle qui ne craint pas Dieu. C'est pourquoi une telle personne envisage d'agir comme bon lui semble. Et malheureusement, cela va dans le sens de la méchanceté. Mais le propos du Qohélète consiste à nous faire désirer la vie. S'il parle de la mort, c'est vrai, ce n'est pas un sujet réjouissant, mais c'est pour dire autre chose et pour insister sur le fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, la mort est au bout du chemin, mais tant qu'il y a de la vie, vous connaissez la suite, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, disons-nous. Et c'est précisément ce que dit le Qohélète. Du côté des vivants, il y a de l'espérance. Et même, il a cette sorte de proverbe, de comparaison, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour comprendre cette comparaison évoquée ici, il faut savoir que le chien, en tout cas à cette époque, était un animal méprisé. Ce n'était pas le meilleur ami de l'homme, c'était plutôt un animal qu'on avait tendance à mépriser. Contrairement au lion, qui lui était un animal noble, respectable, toujours respectable. Jusqu'à aujourd'hui, on a un peu cette image du lion. Mais si le lion, aussi noble soit-il, est mort, il ne vaut plus rien. Et nous pourrions reprendre cette comparaison avec des êtres humains. Même un pauvre vivant vaut mieux qu'un roi mort. L'insistance ne porte pas sur le statut de la personne, mais sur le fait qu'elle soit encore en vie. La vie est préférable à la mort. Et la suite explique pourquoi. Les vivants peuvent encore réfléchir. Ils savent au moins une chose sur leur avenir. Ils mourront. C'est ce que nous voyons au verset 5. Mais les morts, à l'opposé, ne sont plus dans cette réflexion. En ce qui les concerne, ils n'ont plus rien à attendre. C'en est fini de leur vie ici-bas. On lit au verset 6, « Même leur amour, leur haine et leurs ailes ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » La vie est préférable à la mort. Parce que les vivants peuvent encore participer à ce qui se passe ici-bas sous le soleil. Les vivants peuvent encore aimer leurs proches. Les vivants peuvent encore réfléchir. Les vivants peuvent encore faire quelque chose dans ce monde et pour ce monde. Le Qohélète n'évoque pas ici les exceptions, et je suis conscient qu'il y en a. Certains, bien qu'en vie, ne peuvent plus faire grand-chose, à cause de la maladie, ou à cause de forces qui diminuent, ou pour toute autre raison. Mais ici, le Qohelet n'évoque pas ces exceptions. Il veut juste mettre l'accent sur le fait que la vie vaut la peine d'être vécue, et la vie est préférable à la mort. Et je pense d'abord à nous qui sommes là ce matin, bien vivants et globalement bien portants. Accueillons ce que Dieu nous dit ce matin par le Qohelet. Mieux vaut être vivant que mort. Car une fois mort, nous ne pourrons plus rien faire sous le soleil. C'est la raison pour laquelle le Qohelet exhorte une nouvelle fois à la joie, au bonheur, à profiter de la vie. Non pas comme le font les gens au cœur méchant, mais en tenant compte de Dieu et en tenant compte de ce qu'il nous donne déjà. Et c'est là qu'on en arrive à la première exhortation, réjouissons-nous sous le soleil. Dans ce nouveau refrain sur le bonheur, à partir du verset 7, le Qohelet emploie des impératifs. Ce sont des conseils qu'il vaut mieux suivre si nous voulons vraiment vivre la vie telle qu'elle est. Et nous sommes déjà habitués au langage du Qohelet qui nous encourage à cela, au bonheur. Comme précédemment, il est question de manger, de boire, de jouir de la vie. Et mes amis, si cela est répété tant de fois dans ce livre, et c'est déjà la sixième fois, cela veut dire que c'est ainsi que nous devons vivre. Dans la joie. Écoutons de nouveau le début de cette exhortation, versets 7 et 8. « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. » Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. La vie est dure et le Qohelet ne le cache pas, mais la vie est aussi faite de ces moments où nous pouvons nous réjouir. De ces moments où nous pouvons faire la fête. Et heureusement d'ailleurs. C'est en tout cas ce que suggèrent les habits blancs et l'huile sur la tête. Il faut travailler péniblement, c'est vrai. Mais va manger ton pain dans la joie. Oui, le travail est pénible, mais va manger ton pain dans la joie. Est-ce que vous vous dites cela? Ce serait une bonne exhortation à soi-même, n'est-ce pas? La perspective même de la mort ne doit pas atténuer la joie à laquelle nous sommes appelés ici. Ce n'est pas parce que nous savons que nous allons mourir que ça va atténuer les moments où nous pouvons être heureux, ici-bas. Et vous avez remarqué ce qui est dit au verset 7 ? « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. » Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Vraisemblablement, le Qohelet s'adresse aux jeunes gens qui connaissent Dieu. Comment peut-il dire que Dieu prend plaisir à ce qu'ils font, si ce n'est qu'ils sont déjà dans une relation avec Dieu? Prends cette parole aussi pour toi ce matin. Si tu es en Christ, si c'est en lui que tu espères, alors Dieu prend plaisir à ce que tu fais, à ton activité, à ce que tu fais dans ton travail. À ce que tu fais au quotidien. Dieu prend plaisir. Si tu es en Christ, Dieu est de ton côté. Dieu t'approuve déjà. Dieu t'a déjà déclaré juste à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Dieu t'approuve déjà. Alors profite de ce qu'il te donne. À commencer par la nourriture. Il t'approuve déjà. Tu n'as pas besoin. Et tu n'as pas à chercher son approbation. Tu l'as déjà. Alors profite de ce qu'il te donne. Prends-le avec joie et avec reconnaissance. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul met en garde Timothée contre les enseignants de mensonges qui disent ceci, 1 Timothée 4, versets 3 à 5. « Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Autrement dit, pour nous qui sommes croyants, tout ce que Dieu a créé est bon et ne doit pas être rejeté. Recevons-le avec reconnaissance. Et par rapport à des non-croyants, eh bien, nous avons cette autre attitude à l'égard de ce que nous consommons. Parce que nous sommes reconnaissants envers celui qui nous donne toutes ces bonnes choses. Vous rendez-vous compte que même dans le manger et le boire, nous pouvons faire la différence et avoir une attitude qui témoigne de Dieu. Parce que nous, au moins, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Tout n'est pas facile dans la vie, mais nous avons au moins ces moments de repas pour nous réjouir, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. S'ajoute à cela un autre conseil qui va toujours dans le sens du bonheur, de la joie, au milieu de toute la peine qui caractérise notre activité. Regardez le verset 9. « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. » Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Il est intéressant de relever que la joie à laquelle nous nous livrons n'est jamais une manière d'oublier notre condition misérable et pénible. En tout cas, cette joie qui est décrite ici, ce n'est pas une manière d'échapper à notre condition humaine et pénible. Au contraire, nous la vivons au milieu de cette condition-là. Et la manière dont le Qohélète s'exprime ici montre bien qu'il est question de profiter des dons de Dieu, bien que la vie soit difficile, bien qu'elle soit ici définie comme sans consistance, une existence fumeuse. Et de quel don s'agit-il ici, au verset 9 ? L'exhortation est d'être heureux avec la femme que tu aimes. Puisque le Qohélète s'adresse visiblement aux hommes ici. Bien sûr, nous pourrions dire aux femmes de jouir de la vie avec l'homme qu'elles aiment. Ici, c'est bien sûr la relation entre époux qui est valorisée, encouragée. Jouir de la vie avec son conjoint concerne tout le bonheur que nous pouvons partager avec notre partenaire. Dans les moments de complicité, dans les moments de fou rire soudain, dans l'intimité la plus totale. Oui, la vie est difficile, mais il y a au moins cette part qui est la tienne, nous dit le Qohélète. Et je sais bien que cette exhortation n'est applicable que pour celles et ceux qui sont mariés. Et je n'oublie pas celles et ceux qui ne sont pas ou plus dans cette situation. Ne voyez pas en tout cas ce verset 9 comme la condition exclusive pour être heureux, ce qui est parfois le message véhiculé par les comédies romantiques. Être marié n'est pas l'étape ultime du bonheur. Et fort heureusement, le bonheur ne se résume pas uniquement à cela. Le bonheur, c'est déjà que Dieu prenne plaisir à ce que tu fais et qu'il t'approuve. C'est dans ce cadre de la relation avec Dieu que tu peux alors profiter de tout ce qu'il te donne. Et si c'est un mari ou une femme, alors profite. Et si ce n'est pas le cas, Dieu te donne bien d'autres choses, bien d'autres occasions de te réjouir et de faire la fête. Et la deuxième exhortation qui se trouve au verset 10, œuvrons sous le soleil. Je me souviens du témoignage d'une sœur qui ne savait pas ce qu'elle devait faire. Et je crois que c'était en lien avec le ministère dans lequel elle devait s'engager. Elle hésitait et ne savait pas si c'était la volonté de Dieu. Et un jour, quelqu'un lui a fait part de ce verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Et il semble que Ce verset a été libérateur pour cette sœur en question. Elle a su qu'elle devait se lancer dans ce ministère. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Face à la perspective de la mort qui est le sort commun à tous les humains, il y a non seulement de l'espoir tant que nous vivons, mais aussi de l'activité tant que nous avons la force. Le Qohélète le dit clairement, dans le séjour des morts, tout ce que nous faisons sur terre prend fin. Plus d'activité ni de réflexion. Tout le travail manuel, intellectuel que nous apprécions ici-bas prendra fin. Une fois notre dernier souffle rendu. Toute la connaissance que nous nous évertuons à assimiler ne sera plus notre affaire. Une fois notre vie terminée ici-bas. Alors, tant qu'il y a de la force et de la vie, œuvrons sous le soleil. Ce que nous trouvons à faire, et si nous pouvons le faire, faisons-le, avant qu'il ne soit trop tard. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de faire au-delà de nos forces, mais précisément avec la force que tu as, avec ce que tu es capable de faire, avec le temps dont tu disposes, avec les compétences qui sont les tiennes. Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Tu peux te lancer, tu peux entreprendre, parce qu'il n'est pas garanti que tu puisses le faire plus tard. Je le constate chez les autres autour de moi, avec l'âge, les forces déclinent. Et même si nous conservons une certaine forme, nous ne pouvons plus être aussi actifs qu'avant. Et je ne vise personne ici. Je pense à d'autres personnes. Avec la force que nous avons aujourd'hui, œuvrons. Œuvrons pour le Seigneur à travers le métier que nous exerçons, à travers l'éducation que nous donnons à nos enfants, à travers notre participation à la vie associative, dans une épicerie solidaire ou dans une association de quartier. Œuvrons tant que nous en avons la force pour répandre l'Évangile auprès de nos proches, pour partir en mission, si nous en avons la possibilité, pour aller nous former en théologie, tant que cela est possible. Écoutez cette autre parole de l'apôtre Paul, qui justement envisageait la perspective de notre résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Autrement dit, ce que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain. Et tant que cela est possible, tant que nous sommes en vie, œuvrons. Jamais vous ne trouverez dans la Bible une exhortation à la paresse, mais toujours à l'action, à l'activité, sans négliger le repos, sans nous tuer à la tâche. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. C'est peut-être ce que tu devais entendre ce matin. Cette semaine commence le Paris Press Festival et certains seront sur le terrain, donc il s'agit d'un événement d'évangélisation, certains seront sur le terrain cherchant à rendre témoignage du salut que nous trouvons en Jésus-Christ. D'autres seront en train de prier ou d'aider à la logistique. Et d'autres encore travailleront, télétravailleront ou garderont les enfants à la maison. Et là aussi, même si cette semaine vous ne participez pas directement à ce festival, vous êtes sur votre terrain et vous ne cessez pas pour autant d'être des témoins de Jésus-Christ devant les autres. Même lorsque nous nous lançons dans des projets et dans des bons projets, nous n'avons pas pour autant l'assurance que cela va réussir. Et là, c'est là où je nuance un peu les choses parce que c'est ce que dit la suite. C'est ce que le Qohélète semble dire dans la suite du texte. Nous pouvons nous lancer dans de bons projets, mais nous ne sommes pas assurés que cela va réussir. Et c'est mon dernier point sur cette sagesse sous le soleil. Alors, je ne sais pas si vous allez suivre les épreuves sportives des Jeux Olympiques, ou si vous regardez le sport en général, mais vous savez que même les meilleurs athlètes ne sont pas toujours celles et ceux qui remportent les médailles d'or. Il arrive qu'ils se blessent, il arrive qu'ils soient maladroits, ce jour-là précisément, ou qu'ils déclarent forfait. Nul n'est à l'abri des imprévus et des circonstances défavorables. Et d'un certain côté, ceux qui misent sur les meilleurs oublient la réalité décrite dans les versets 11 et 12. Écoutez ces exemples. Le Qohélète dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure, il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout d'un coup. » Et tout cela nous rappelle que personne n'est maître de sa vie. Même avec les meilleures dispositions, avec toutes les chances de notre côté, les meilleurs calculs, personne ne peut être certain de réussir à tous les coups. Personne ne peut totalement anticiper les ennuis. Et comme ces proies prises au piège, nous sommes soudainement frappés par le malheur. De fait que nous ignorons l'avenir, nous sommes semblables à ces animaux qui ne se doutaient de rien avant d'être capturés. C'est exactement ce qui se passe lorsque des ennuis nous tombent dessus. Nous sommes aussi fragiles que ces créatures. Et si nous voulons tirer quelque chose de cette sagesse, nous devons admettre cette réalité que le succès n'est jamais garanti sous le soleil. Et dans les versets 13 et suivants, le Qohélète met en avant la sagesse, une fois de plus, mais en rappelant que cette sagesse a bien des limites. Et j'aimerais seulement insister sur le verset 1 du chapitre 10. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Une mouche, vous savez, c'est les insectes qui nous embêtent bien en ce moment, parce qu'on est en été. Une mouche suffit à elle seule pour gâcher ce qui a été préparé, peut-être avec le plus grand raffinement. Il suffit d'une petite mouche morte, ou de plusieurs, pour tout gâcher. Et cette image sert à préparer ce qui suit. Écoutez de nouveau, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un acte compromettant, un acte de folie, peut ternir une réputation bâtie avec sagesse. Et récemment, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se dit à propos de l'abbé Pierre. Il aurait été l'auteur d'agressions sexuelles. Et beaucoup sont prêts à dire que cela n'enlève en rien ses œuvres de bienfaisance en faveur des démunis. Mais est-ce si sûr? Est-ce si sûr que ce qu'un individu peut commettre ne change rien, ne ternit pas ce qu'il a pu faire de bien? Malheureusement, nous avons bien d'autres exemples, y compris parmi les évangéliques, qui nous montrent à quel point un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur tout ce qui a été fait de bien. Et vous avez sans doute des exemples en tête. Que cela nous serve d'avertissement. Que nous soyons en responsabilité, comme c'est le cas pour moi, ou non, rappelons-nous ce verset 1. Il suffit d'un peu de folie, comme la mouche morte, pour tout gâcher, pour gâcher ce que nous avons mis des années à bâtir. Un ministère, un mariage, un peu de folie pour gâcher, pour ternir notre réputation. C'est un avertissement pour nous, pour que nous restions vigilants, que nous puissions ne pas sous-estimer ce qu'est la folie lorsqu'on se livre à cette folie et combien elle peut gâcher une vie entière. Que le Seigneur nous en garde. Récapitulons pour aujourd'hui. Le Qohélète nous a placés en face de la réalité, celle de la mort comme la fin de notre activité ici-bas. Et face à cette perspective, le maître de sagesse a deux conseils. Premièrement, profiter pleinement de tout ce que Dieu nous donne, puisqu'il prend déjà plaisir à ce que nous faisons. Et deuxièmement, faire ce que nous trouvons à faire avec la force que nous avons encore. Et tout en nous lançant dans des projets, peut-être de nouveaux projets, rappelons-nous la réalité que la réussite n'est jamais une garantie sous le soleil. Bien des éléments font obstacle à la sagesse, qui n'est pas une fin en soi. Et nous avons vu en dernier lieu qu'un peu de folie peut tout gâcher. Au bout du compte, l'essentiel pour nous est de faire la volonté de Dieu. Parfois, nous nous lançons dans des projets et cela n'aboutit pas comme nous l'avons prévu. Parfois, nous échouons à cause des circonstances. Parfois, c'est à cause de notre propre faute ou de celle des autres. Mais souvenons-nous du premier verset que j'ai mentionné au chapitre 9. Les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Souvenons-nous que quoi que nous puissions entreprendre, il y a cette réalité. En Christ, ce que nous faisons n'est pas vain. Et cela doit nous encourager à l'action. Ce que nous faisons n'est pas vain parce que Christ, lui, a accompli l'œuvre ultime. Lorsqu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, tout notre salut repose sur cette œuvre ultime, parfaite et suffisante. Et c'est ça le plus important pour nous. Ce n'est pas que nos œuvres puissent réussir ou non, mais c'est que lui a réussi pour nous. Dieu prend déjà plaisir dans ce que nous faisons. Et si cela est ainsi, eh bien nous le devons à Jésus, notre Seigneur. Justement, amen. Je vous invite à prendre un temps pour avoir l'occasion de répondre à la parole de Dieu, aux exhortations que nous avons entendues ce matin. Peut-être que c'est l'occasion aussi de pouvoir prendre une décision, un engagement devant le Seigneur, ou tout simplement de lui remettre les projets que nous avons en cours. Peut-être s'agit-il aussi de lui demander la force pour accomplir sa volonté.